Chapitre 2. Les régimes totalitaires de l'entre-deux-guerres. Cours 2. L'exercice du pouvoir totalitaire. Quelle forme prend l'exercice du pouvoir dans les régimes totalitaires de l'entre-deux-guerres? A. Des régimes dictatoriaux. 1. La négation des libertés. En Italie et en Allemagne, les libertés fondamentales, liberté de la presse, liberté syndicale, droit de grève, etc., sont suspendues. Si la constitution de l'URSS reconnaît les principes démocratiques d'égalité et de liberté, ils sont cependant largement niés dans la pratique. Par exemple, Staline se lance dès 1928 dans une politique antireligieuse, contraire aux libertés de conscience et de culte inscrites dans la constitution. 2. Le système du parti unique. Dans tous ces régimes, un seul parti est autorisé. Le Parti communiste, PCUS, en URSS depuis 1918, le Parti national fasciste, en Italie depuis 1926, et le NSDAP, en Allemagne, dès 1933. L'opposition est donc interdite. L'appartenance au parti est souvent une condition indispensable pour l'exercice de responsabilité, que ce soit dans l'État ou dans la société. En URSS, elle engendre la nomenklatura, nouvelle élite formée des responsables du parti bénéficiant de privilèges. Ces partis uniques sont aussi des partis de masse, regroupant plusieurs millions d'adhérents. 3. Le culte du chef. Le développement d'un culte du chef, le guide, doté d'une autorité charismatique, est un trait commun à tous les régimes totalitaires. Mussolini est le Duce, Hitler le Führer, Staline le père des peuples. En Italie et en Allemagne, la diffusion de l'idéologie est confiée à un ministère de la propagande qui organise de nombreuses manifestations de masse, campagnes d'affichage et utilise les médias modernes comme la radio. L'État assure aussi un contrôle strict de toute la production artistique et culturelle, ce qui passe par la mise en place d'un art officiel et d'une censure. B. Un contrôle total de la société. 1. La prise en main de l'économie et de la production. En URSS, le contrôle de l'économie est assuré à partir de 1928 par la planification. Elle met l'accent sur le développement de l'industrie lourde et donne lieu à une intense propagande, le stakhanovisme. La collectivisation des terres est mise en œuvre. Kolkhoze et Sovkhoze doivent se substituer à la propriété privée. En Allemagne et en Italie, le contrôle de l'économie ne passe pas par la suppression de la propriété privée, mais par la mobilisation des forces productives afin d'assurer la puissance et l'indépendance du pays. Travaux autoroutiers et réarmement rapide en Allemagne, développement de la production agricole en Italie. 2. L'encadrement des individus et des esprits. La volonté de créer un homme nouveau suscite partout la naissance et le développement d'organisations de jeunesse destinées au conditionnement des esprits. Les jeunesses hitlériennes en Allemagne, les Balilas en Italie ou le Komsomol en URSS. L'enseignement et les enseignants sont placés sous contrôle. D'autres structures sont destinées à encadrer le reste de la population, notamment dans ses loisirs. Œuvre nationale du temps libre en Italie, mouvement La force par la joie en Allemagne. 3. Un contrôle total. Il reste difficile de mesurer l'impact de cet encadrement. Si l'enthousiasme est réel, il varie aussi en fonction des réussites du régime. Le plein emploi ou les succès militaires sont par exemple accueillis avec ferveur dans l'Allemagne nazie. Une opposition active subsiste, le plus souvent à l'étranger, animée par des émigrés italiens ou allemands. Parfois, des mouvements de résistance clandestins émanant des anciens partis politiques interdits ou des églises, Allemagne, existent. L'opposition peut aussi prendre la forme d'une résistance passive, non-respect des objectifs de production en URSS. C. La violence comme principe de gouvernement. 1. Les moyens de la violence. Les régimes totalitaires se dotent tous d'une police politique traquant les opposants. La Tchéka, devenue NKVD en URSS. L'OVRA, organisme de vigilance et de répression de l'antifascisme créé en 1926 en Italie. La Gestapo, créée en 1933, et la SS en Allemagne. Ces polices politiques sont les instruments d'une violence dont l'ampleur diffère selon les régimes. Le fascisme italien fait ainsi beaucoup moins de victimes que le nazisme et le stalinisme. 2. La répression des oppositions. Les pouvoirs totalitaires persécutent leurs opposants politiques. En Allemagne, les premiers camps de concentration fonctionnent à partir de 1933, Dachau. En Italie, les îles Lipari remplissent cette fonction. En URSS, une administration spécifique, le Goulag, gère les camps de travail dans lesquels sont déportés les opposants. La violence se déchaîne aussi contre ceux qui, au sein du pouvoir, s'éloignent de la ligne officielle. En 1934, lors de la nuit des longs couteaux, Hitler fait éliminer les chefs de la SA qu'il juge trop anticapitalistes. En URSS, Staline organise de vastes purges, 1936-1938, qui donnent lieu à l'élimination des anciens cadres du parti et de l'armée lors des spectaculaires procès de Moscou. 3. L'élimination des ennemis de l'intérieur. En Allemagne, les Juifs sont victimes de la violence de l'État nazi. Cela prend d'abord la forme de lois discriminatoires, comme les lois de Nuremberg, 1935, puis celles de pogrom, comme celui de la Nuit de Cristal, en 1938. En URSS, la violence se dirige tout particulièrement contre les koulaks. De 1929 à 1933, Staline lance la dékoulakisation qui provoque une famine et plusieurs millions de victimes. Ils sont aussi les principales victimes de la Grande Terreur en 1937 et 1938.